Alors pour la bon, le début du reportage, effectivement, c'est l'interview de Peter von Leben, l'auteur du bouquin, La vie secrète des arts. Bon, il est clairement, il a son interprétation qui est très anthropocentrique, c'est-à-dire très, disons, il met des mots que nous on utilise en tant qu'être humain sur l'amour entre les arbres, la sensibilité des arbres, la souffrance, etc. Tout un tas de choses qui sont pas, pour beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les arbres. On ne peut pas dire si c'est avéré ou c'est pas avéré. Après, ça dépend des mots qu'on utilise. C'est pour ça qu'on a posé la question, les arbres sont-ils vraiment intelligents? On peut discuter pendant, on peut disserter pendant des heures sur qu'est-ce que l'intelligence. Voilà. On peut disserter sur qu'est-ce qu'on définit comme intelligence. Si c'est percevoir des signaux extérieurs, effectivement, on peut dire que les plantes sont intelligentes, y compris les arbres. Comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, ça dépend, enfin on pourrait disserter pendant des heures, ça dépend des termes employés. Moi personnellement, je n'utiliserais pas le terme intelligence, voilà, pour moi ça dépend de la définition, mais si on met derrière intelligence.
Il n'y a qu'une définition ensemble, hein. Elle fait appel à la pensée,
oui, voilà, la pensée
et à l'abstraction d'idées. La connaissance, on ne peut pas démontrer ça.
Alors après que les arbres perçoivent des choses, on voit très bien dans le film que les arbres perçoivent le vent, donc réagissent au vent, perçoivent les mouvements au niveau des feuilles, il y a des influx électriques dans les plantes, donc il y a une perception. Alors après on parle de communication, alors c'est pareil, les échanges dont Marc vous a parlé, avec des échanges nutritionnels de sucre qui sont échangés entre les arbres et les champignons, éventuellement entre des arbres, des champignons et d'autres plantes, des orchidées ou d'autres arbres, et par extension des arbres et éventuellement les semis de ces mêmes arbres. Peter von Leben appelle ça allaiter ses petits. Moi j'appelle ça interaction trophique dans un milieu forestier entre des arbres et d'autres arbres. Voilà, on peut résumer ça avec des termes beaucoup plus, disons, factuels que des termes anthropocentrés d'intelligence, de souffrance ou autre, qui, à mon avis, sont pas forcément très, très bien adaptés.
Mais rien que le fait que ces organismes, en fait, aient su s'adapter à leur environnement, qu'à l'échelle de la vie d'un individu, un arbre, ça peut vivre 150, 200, 1000 ans, et ça va s'adapter à son environnement, alors que c'est infoutu de bouger. Alors, ça bouge un peu, l'a dit Catherine Laine, là, on le voit, hein, ça se courbe, mais en fait, c'est prisonnier de ses racines. Et s'il y a des contraintes, contrairement aux animaux, ils ne peuvent pas partir, hein, ils doivent rester là où ils sont. Et en fait, leurs racines, c'est aussi leur salut. Hein. Et on l'a vu avec l'interaction qu'ils établissent avec leur environnement et avec les micro-organismes, par exemple, du sol. Et ils ont trouvé ces stratégies-là pour résister aux contraintes climatiques, pour aller chercher de la nourriture là où il n'y en avait plus sous leurs pieds, parce qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est de l'adaptation, de la coévolution, et on peut considérer que c'est une forme d'intelligence de la nature, plutôt, je dirais, qui a fait que ces organismes, comme les autres, offrent des capacités assez remarquables. Et l'anthropomorphisme, parfois, est réducteur, je trouve, parce qu'ils ont développé des stratégies qui sont parfois beaucoup plus fines que même nous avons pu développer, quoi. L'homme face au danger va fuir tout de suite. Hein. Eux, non, font face en développant d'autres stratégies.